je reste à ma place. Désolé pour vous. C'est là que je m'aperçois, depuis ce matin, j'ai préparé la scène, j'ai préparé la salle, alors que Michel est là, au moins, pourtant je suis là de bonne heure, hein, 9h10, 9h15, je suis là, mais lui, il est déjà encore un quart d'heure ou 20 minutes avant moi, et tout est prêt quand j'arrive. Donc voilà. Ce matin, j'avais à cœur de partager un texte très simple, et qu'on connaît tous. Alors quand on dit ça, déjà, chacun se dit, ah bon, d'accord, on connaît. Est-ce qu'il faut écouter ? Je peux m'absenter ? J'aimerais qu'on lise attentivement. On va attendre un instant. C'est bon ? C'est bon pour l'enregistrement ? Très bien. Alors je vais demander à quelqu'un de lire le texte de ce matin assez fortement. Ah, tu peux peut-être me mettre dans le micro, comme ça, ça enregistrera mieux. Ah oui, carrément. Comme un pro. Ça te rappellera des souvenirs.
Tu m'entends ? Oui, c'est bon. Bon.
Alors, Évangile de Luc 10, 25. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains des bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? Il répondit, « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. »
Amen.
Pour celui qui connaît l'œuvre de Van Gogh, ce tableau est plutôt surprenant, tant il s'éloigne de la production habituelle du peintre d'Arles et de la Provence. Les teintes sont froides et presque un peu désagréables. Le bleu dessine les rochers d'un défilé encaissé qui salit les couleurs. Vert terne de l'herbe, gris déprimant de la montagne, ocre livide du chemin, jaune sale du manteau. Et puis, le peintre a représenté la scène avec un peu trop de fidélité. A-t-on besoin de distinguer les silhouettes fantomatiques du prêtre et du lévite pour se souvenir qu'ils ont laissé pour mort l'homme qui a été dévalisé par les brigands ? Que vient faire ce coffret qui rappelle avec naïveté qu'il y a bien eu vol ? Et pourquoi avoir voulu autant coller au texte jusqu'à en représenter les moindres détails ? La monture, les bandages imbibés de vin pour soulager le plus rapidement possible les plaies, et jusqu'à l'étrange turban rouge qui rappelle que le sauveur est bien un samaritain, c'est-à-dire un étranger. Tout cela sans l'image pieuse. Et peut-être Van Gogh s'est-il souvenu de gravures aperçues dans les livres de catéchisme, lui qui a voulu devenir pasteur. Cette économie de moyens, presque maladroite, permet au regard de se focaliser sur le centre du tableau. L'étonnant geste qu'accomplit le Samaritain envers le Judéen blessé. Quel drôle de couple. D'un côté, le geste vigoureux, presque brutal, qui charge l'homme sur le cheval comme on le ferait d'un paquet. Et de l'autre, l'étrange position du blessé. Ainsi, recroquevillé, la main droite passée autour du cou de son sauveur, le bras court, il paraît nettement plus petit, comme un enfant. Le bandeau sur la tête et le tissu du même bleu que le pantalon du Samaritain, si étrangement noué autour de ses jambes, achève de lui donner un air juvénile. Ce faisant, Van Gogh nous administre une magistrale leçon sur la charité. « Qui est mon prochain ?» demande le légiste. C'est sa question qui pousse Jésus à commencer sa parabole. Le peintre répond en suivant le fil de la parabole. « Mon prochain, c'est celui que je rencontre sur mon chemin et non celui avec qui j'entretiens des liens. Mon prochain, c'est celui qui a tellement besoin de moi qu'il est impuissant comme un enfant. Et surtout, mon prochain, c'est celui que je viens secourir sans exiger de lui, en échange, des sentiments ou de la reconnaissance. Le bon Samaritain ne fait que son devoir, tout dans l'attitude que lui a donnée Van Gogh, le prouve.
Tu peux afficher le tableau ? On va laisser ce tableau-là tout au long de ce temps de partage. J'avais à cœur de partager cette petite vidéo sur le bon Samaritain et sur Van Gogh. C'est certainement une des représentations les plus touchantes et les plus vivantes sur cette parabole qu'on retrouve dans l'évangile de Luc. Et quand on connaît un peu le travail et le cheminement de Van Gogh. On sait qu'il a certainement vu un travail d'Eugène Delacroix qui était aussi sur la même thématique. Et lui, il l'a interprété parce qu'il l'a certainement vu qu'en noir et blanc, en gravure. Et il a mis dans cette toile à la fois son vécu, sa souffrance, mais aussi toute son affection pour le genre humain. Et j'aime beaucoup cette toile-là et ce qu'elle nous dit. Il y a plein de détails. On peut, l'auteur de ce petite vidéo dit par exemple que la couleur bleue qui est sur la personne secourue et sur le Samaritain est assez intéressante puisque le bleu c'est une représentation de ce qui vient du ciel et on verra que c'est certainement pas innocent. Le coffre ouvert, vidé par les voleurs, c'est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire que celui qui descend vers Jéricho depuis Jérusalem a été dépouillé. Et c'est peut-être certainement aussi quelque chose de très révélateur. Van Gogh, quand on connaît un peu son parcours, on apprend qu'il il s'est destiné à être pasteur. Il a fait des études de théologie et puis il s'est rendu compte que finalement, la théologie pour la théologie, c'était quelque chose d'abstrait. Et notamment face à la souffrance des autres, il ne voyait pas l'intérêt de cela. Alors il est parti comme prédicateur dans le Borinage en Belgique et pendant une longue période, il s'est consacré à annoncer l'évangile. Il a annoncé l'évangile. Et puis, il l'a fait dans une région, le Borinage en Belgique, qui est la région qui était une des plus pauvres de Belgique. Alors, il a travaillé comme cela pour apporter de la consolation, de l'aide, du soutien aux plus pauvres. Et puis ensuite, quand il a quitté sa vocation de prédicateur pour se tourner définitivement vers la peinture, il n'a pas abandonné, et on le voit dans son travail, sa spiritualité religieuse, sa foi et la Bible sont restés les repères constants de son existence. J'ai deux tableaux favoris que mes enfants connaissent. Ils me disent, si on te perd dans au musée d'Orsay, on sait où on te retrouve. C'est soit là, soit là. Et donc, c'est ce qui s'est passé une des dernières fois où une de mes filles, je suis resté 2 heures devant un tableau et, qui est un de mes préférés, et elle m'avait perdu, et elle est revenue, elle m'a retrouvé là. Les deux tableaux, c'est les raboteurs de parquet de Caillebotte et l'église d'Auvers-sur-Oise de Vincent Van Gogh. Il y a, quand on regarde ce tableau, à la fois une admiration profonde de l'auteur pour l'église, pour ce qu'elle représente et pour la nature. Pour la création. Alors, c'est lui qui disait, la peinture est une démarche pour aller de l'ombre à la lumière. Et je crois que dans ce tableau-là, il y a quelque chose de très, très fort. C'est ce qu'il écrivait à son frère Théo. La peinture, c'est une démarche pour aller de l'ombre à la lumière. Et c'est aussi ce qu'a été sa démarche de foi, toute sa vie durant, jusqu'à la fin. Alors, on vient de lire cette parabole du bon samaritain. C'est une parabole qui a été racontée par Jésus à un moment bien précis dans son ministère, mais aussi dans une école, une époque bien précise. En fait, quand Jésus était enfant, il y avait deux rabbins qui étaient, je dirais, des sommités du monde judaïque, c'est Hillel et Shammai. Et Hillel avait édicté une règle qu'on a appelée la règle d'or. Et la règle d'or, c'était ce que tous les juifs considéraient comme l'ultime précepte. Je lisais dernièrement un livre sur le judaïsme de Ernest Guggenheim, qui a été au siècle dernier, à la fin du siècle dernier, le président de la communauté juive, et qui disait les mitzvot, c'est-à-dire tous les commandements qu'il y a dans le judaïsme sont faits parce que le judaïsme est une religion d'action. Il dit le judaïsme, c'est agir maintenant selon la volonté de Dieu sans attendre rien en retour. Et j'aimais beaucoup la définition de Guggenheim sur le respect des juifs par rapport à la loi et aux mitzvot. Mitzvot, c'est les commandements. Et parmi les commandements, il y a ceux de l'Écriture, puis il y a ceux que l'on a déclinés de l'Écriture. Et Hillel, quand Jésus était jeune, avait édicté une règle d'or qui est devenue une règle que tous les Juifs connaissent. Et cette règle d'or, prononcée par Hillel, c'est une règle sous forme négative. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est la règle d'or dans le judaïsme. Ne fais pas à quelqu'un d'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Or, dans la parabole du Samaritain, Jésus, qui est un juif connaissant, parce que c'était vraiment une règle d'or, qui était connue de tout Israël, Jésus la reprend sous une forme positive. Fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. Fais à l'autre, oui, on inverse. Judaïsme, c'est quelque chose de... Ne fais pas ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Et là, Jésus dit, on va aller plus loin, on va aller beaucoup plus loin. Fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. Et tout commence par une question d'un spécialiste de la loi. C'est pour ça que l'auteur de cette petite vidéo dit, c'est un légiste, c'est quelqu'un qui connaît la loi. Et il pose une question relativement simple, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ? Quand je suis allé à l'hôpital il y a 2 jours pour voir cet ami, mon souci c'était ça avant d'aller le voir. Il m'a dit, comment, alors que ça fait 40 ans que je le croise, que je le connais, j'étais beaucoup plus proche de sa famille, de son épouse qui était chrétienne, mais à lui je n'ai jamais été, je dirais, intrusif, j'ai toujours respecté ce qu'il posait visiblement d'une distance par rapport à Dieu, mais là, dans un lit d'hôpital, tout seul, sans sa famille autour, comment aborder cette question de la vie éternelle ? Et finalement, j'ai pu poser cette question qui est celle de ce légiste. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ? Alors, c'est une question un peu paradoxale puisqu'on est là face à un spécialiste de la loi. Et c'est un spécialiste de la loi qui interroge Jésus en lui disant « Je voudrais savoir, apprends-moi, explique-moi » C'est un petit peu comme Nicodème qui vient de nuit. Mais si toi qui es un spécialiste de la Torah, tu ne sais pas, qui va te l'expliquer? Mais toi, maître. Et là, il invite Jésus à lui dire. Alors on s'aperçoit que ce n'est pas si clair que ça et que dans son esprit, il y a une manière de, une volonté de coincer Jésus en lui disant « Voilà, est-ce que tu es capable de me répondre ?» Et Jésus lui retourne sa question, il joue avec lui quelque part, il ne répond pas à la question du légiste ou alors il le fait à la manière juive. Répondre à une question par une question. C'est très juif ça. Il dit « Mais qu'est-il écrit dans la loi ?» Et puis le légiste, il est, le jeune homme, il est là. On suppose qu'il est jeune. Moi, j'ai toujours imaginé jeune, celui-là. Mais il est là et il dit, ben voilà, je vais te citer Deutéronome 6, 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Deutéronome, la Torah, la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et je rajoute dans le Lévitique, toujours la Torah, chapitre 19, verset 18. Tu aimeras ton prochain. Et tu, c'est pas n'importe qui, c'est tout le monde. Quand tu aimeras, ça s'adresse à tous ceux qui sont là. Ah, le légiste peut s'identifier à ce tu. Ça me concerne. Seigneur ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est un composant clair. Il s'agit de Dieu qui est dans les cieux, le maître, le créateur, et puis ton prochain, ton Dieu, ton prochain. Les choses sont claires. Mais le prochain, c'est qui? Tu, c'est le sujet de la loi de la mort. C'est le sujet. Tu aimeras. En revanche, le Seigneur ton Dieu est ton prochain, et toi-même, ce sont des compléments. À la demande de Jésus, le légiste répond ainsi à la question. Alors voilà, il y a le sujet de l'amour, c'est tu, toi, oui bon, moi aussi. Mais c'est moi et toi. Et le complément, c'est Dieu et le prochain. Alors, le légiste dit, mais alors, bon, d'accord, mais qui est mon prochain? Une manière de dire, oui, bon, tu ne vas pas m'attraper comme ça, hein, moi je connais la loi, bien sûr, mais vas-y, dis-moi, qui est mon prochain? Et Jésus raconte à ce moment-là une parabole. Alors, je voudrais vous citer, je dirais peut-être une autre référence artistique pour l'interprétation de cette parabole, puisqu'il raconte l'histoire, Jésus, d'un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, il tombe aux mains des bandits, il se fait voler, il se fait taper, les autres le laissent à demi-mort, il y a un prêtre qui passe, il y a un lévite qui passe, il ne s'arrête pas, et puis il y a un samaritain qui vient, qui prend soin de lui, et puis qui va le prendre sur son cheval, et puis qui va l'amener jusqu'à une auberge, qui va le confier, et qui ensuite dit, bien, paye le frais des soins, il paye le frais des soins, et ensuite, il dit, ben, quand je reviendrai, je te donnerai ce qu'il pourrait y avoir de plus à régler. Alors, on pourrait se dire que la signification de cette parabole, c'est une parabole très pratique. Christiane, cette parabole te dit comment tu dois m'aimer. C'est ça, en clair, non? Ou comment je dois aimer mon prochain, l'autre qui est à côté? Pour le mari, il y a Christophe, il regarde sa femme, il dit « Ah bon ?» Ma femme, mon mari, mon voisin, mes enfants, mes collègues de travail. Tout cela, c'est donc une parabole pour savoir aimer son prochain. Oui, oui. Mais il y a une œuvre d'art qui nous explique qu'à l'origine, l'interprétation de cette parabole était à un autre niveau. Et on retrouve en fait la signification de cette parabole à partir des premiers siècles dans la cathédrale de Chartres. La cathédrale de Chartres, c'est une cathédrale qui date du XIe siècle et c'est certainement une des plus belles cathédrales au niveau des vitraux. Qui a déjà visité la cathédrale de Chartres? Ah, il y a quand même une majorité qui ne l'ont pas vue. Ah ouais, ouais. Ah, moi je vous y invite. Et je vous y invite, en y regardant tous les vitraux, c'est certainement un des lieux XIe siècle quand même, hein, et notamment les vitraux de Chartres sont très connus pour leur couleur bleue. Il y a un bleu éclatant. Et il y a des vitraux qui représentent toutes les scènes bibliques. Et il y a un vitrail tout en longueur, comme ça, en hauteur, et qui représente en trois parties. Et la deuxième partie est consacrée, en fait, à la parabole du bon samaritain. Ouais. Alors, elle est intéressante. Sauf que, elle représente, ce même vitrail représente aussi l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden en haut, sur la partie haute. Et puis en bas, plus en bas, au milieu, il y a la parabole du Samaritain qui s'intrique, comme cela. Ça veut dire que dans le même vitrail, il y en a une quantité, mais dans le même vitrail, il est représenté à la fois la chute de l'homme et à la fois la parabole du bon Samaritain. Tout cela, en fait, parce que dans les premiers temps de la chrétienté, dès le deuxième siècle, notamment c'est Irénée, je parle à Michel là, qui aime bien les pères de l'Église, hein, Irénée, avec par exemple aussi Clément d'Alexandrie, qui était un de ses élèves, et puis Origène, ont interprété la parabole du bon samaritain de cette manière suivante. L'homme qui descend depuis Jérusalem jusqu'à Jéricho, c'est Adam, c'est l'homme, c'est l'être humain. Jérusalem, c'est le paradis, ou en tout cas la présence de Dieu. C'est pas absurde quand on sait qu'on parle de nouvelle Jérusalem en ce qui concerne la fin des temps. Jéricho, c'est le monde, la perdition. Le monde loin de Dieu. Les brigands, ce sont les puissances hostiles. Le sacrificateur représente la loi, le lévite, les prophètes en même temps, et le lévite représente les prophètes, et le samaritain représente le Christ. Le samaritain représente le Christ. On verra que ce samaritain, c'est un étranger par rapport au judaïsme. Il faut savoir que les Samaritains ont été rejetés du temps de Jésus, notamment les Samaritains étaient rejetés parce qu'il y avait eu une sombre histoire de Samaritains qui avaient jeté des ossements sur le parvis du temple à Jérusalem. Une manière de dire, mais ce n'est pas en cet endroit uniquement qu'il faut adorer Dieu, c'est partout où l'on se trouve. Donc les Samaritains et les Juifs étaient vraiment séparés. Donc le Samaritain représente le Christ. Les blessures faites à cet homme, à cette personne, sont la désobéissance. La monture, c'est le corps du Seigneur. L'auberge, qui accepte tous ceux qui désirent y entrer, représente l'Église. Et l'hôte de l'auberge, c'est, entre guillemets, le chef de l'Église, ou en tout cas les responsables à qui le soin du blessé est confié. Et le fait que le Samaritain promet de revenir représente le retour de Christ. Ça, cette interprétation de la parabole du bon Samaritain, c'est quelque chose qui commence dès le IIe siècle. Alors, c'est une lecture allégorique, mais c'est aussi une représentation du plan de salut de Dieu. Ah, alors si on voit ça, on se dit oui, mais alors, ou si c'est une représentation du plan de salut de Dieu avec le Christ qui sauve l'humanité, etc., où est-ce qu'on est nous aujourd'hui, alors à quoi ça nous sert? Bah, tout simplement parce que dans 1 Thessaloniciens 1:6, l'apôtre Paul dit: vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Ça veut dire que ce que Christ fait, je suis appelé à le faire. Ce que Christ est, je suis appelé à le devenir. Alors, si on reprend dans cette représentation allégorique, cette parabole du bon samaritain, il y a des éléments qui nous parlent de cette manière-là. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands. Un homme. Les premiers chrétiens ont comparé cet homme, c'est vrai, à Adam, c'est-à-dire à l'humanité, au représentant de l'humanité. Et dans les langues anciennes, c'était peut-être plus présent, puisqu'en hébreu, le mot Adam signifie humanité. Adama, c'est l'humanité dans son ensemble. Donc, c'est Clément d'Alexandrie qui, à juste titre, pour lui, a vu la victime comme le représentant de nous tous. Cette victime, c'est l'humanité, l'homme qui est blessé, meurtri et qui a besoin d'être sauvé. Alors, vous vous rappelez que Adam et Ève étaient nus quand ils vivaient dans le jardin d'Éden, et ça se réfère aux vêtements spirituels de pureté, d'innocence et de vérité qu'Adam et Ève possédaient avant qu'ils soient pécheurs. Eh bien, cet homme-là descendait de Jérusalem jusqu'à Jéricho. Et donc, ce chemin-là, ça parle de la descente d'Adam depuis le jardin d'Éden jusque dans ce monde, de la gloire qui était la sienne quand il était dans la présence de Dieu, jusqu'à sa déchéance, la mort, les blessures qui sont venues s'emparer de sa vie. Si on regarde, si vous connaissez un petit peu la géographie de Jérusalem à Jéricho, vous saurez que le terrain qui conduit de l'une de ces deux villes à l'autre, c'est un terrain escarpé, c'est un territoire solitaire, désolé, rocheux, propice aux attaques des brigands. C'est vraiment le coupe-gorge par excellence. Et puis, ce terrain commence à Jérusalem et Jésus décrit la personne comme descendant non pas de n'importe quel endroit, mais de cette ville qui est la ville sainte, c'est-à-dire là où Dieu habite au niveau du temple. C'est ça la parabole et le sens de la parabole. Et j'irai quelque part, cet homme-là quitte la présence de Dieu, comme Adam a pu le faire en sortant du jardin d'Éden, pour choisir d'aller vers le monde. Et la sainteté de la ville de Jérusalem, le temple sacré, ça nous représente toute cette démarche-là allégorique. À Jéricho, alors Jéricho, c'est une ville que j'affectionne, moi, parce que Jéricho, on le sait bien, dans l'Ancien Testament, c'est la première ville sur laquelle le peuple d'Israël ne s'est pas cassé les dents, mais au contraire, a vu la victoire de Dieu s'accomplir. Or, Jéricho, c'est par essence, c'est ce qu'il y a le plus loin de Jérusalem, le plus profond. En fait, Jéricho, c'est la ville qui est la plus basse sur toute la terre. Elle est à plus de 240 mètres, je crois, de profondeur. Il n'y a pas de ville plus basse que Jéricho. C'est dire s'il faut descendre. Et l'homme descendait le plus loin possible par rapport à Jérusalem. Alors, Jéricho, c'est en El-Ria, en arabe, c'est un des premiers centres du culte des divinités lunaires. Donc, c'est vous dire si Jéricho, c'est le plus éloigné qu'il soit de la présence de Dieu, une ville qui aujourd'hui fait 25 000 habitants. Donc, elle est décrite comme la ville des palmiers, la ville des sources d'eau chaude, etc. Tout ce que le monde peut proposer de plus agréable et de plus attractif. Ouais. On a beau appartenir au Seigneur, il y a des moments où il y a bien des Jéricho qui deviennent attractifs même pour les enfants de Dieu. Hein ? La plus basse, moins de 140 mètres. Et là, cet homme qui descend, qui tourne le dos à Jérusalem et qui s'enfonce dans les profondeurs de la terre, cet homme tombe. Et là, on peut imaginer qu'on est là face à l'homme déchu, celui qui est dans ce rapport au péché, à l'éloignement de Dieu, au milieu des brigands, c'est-à-dire au milieu de toutes ces puissances qui sont là pour le faire chuter. L'œuvre et le but de l'adversaire, ce n'est pas autre chose que de nous faire tomber. Et pas seulement avant que nous rencontrions Christ, mais aussi après. Comment je vais faire pour t'éloigner des plans de Dieu pour ta vie? Comment je vais faire pour t'empêcher, j'ai entendu une parole ce matin, de goûter aux richesses et à la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Nous sommes toujours avec l'adversaire qui rôde comme un lion rugissant pour nous faire tomber. Et ils l'ont dépouillé après l'avoir chargé de coups, complètement laissé pour mort. Moi, j'aime beaucoup ce petit coffre ouvert où il n'y a plus rien dessiné et peint par Van Gogh. Parce que c'est vraiment l'état dans lequel l'être humain se trouve quand l'œuvre de l'adversaire a réussi à le faire tomber. Toutes les richesses qui étaient là ont disparu. Alors, moi je sais que mon Dieu est un Dieu de grâce. Et que sa grâce fait que même si je suis dépouillé par l'adversaire à un moment donné, il peut... Alors, c'est pas Cyrulnik qui a inventé la notion de résilience. Non, enfin, j'espère que vous en êtes convaincus. Cyrulnik a redécouvert le principe de résilience. La résilience, elle trouve sa source en Jésus-Christ. Si je suis dépouillé, si tout m'est enlevé, si je laisse Christ m'aider, m'accompagner, me soutenir, si je laisse Christ accomplir son œuvre en moi, alors toute résilience est possible. Retrouver ce que je suis profondément, toutes les richesses que Dieu a déjà déposées en moi. Ce n'est pas simplement les moyens financiers, hein, on ne parle pas de ça, mais tout ce que tu es peut redevenir parce que Christ les rend à nouveau vivantes. C'est cela l'œuvre de la croix. Est-ce que je peux laisser Christ prendre soin de moi? Est-ce que je peux lui dire oui afin que son œuvre de régénération dont on parlait tout à l'heure s'accomplisse? Ils l'ont laissé à demi-mort. La personne était tombée, était devenue sujette au péché, avait souffert la première mort devenant mortelle, mais la seconde mort, la séparation permanente de Dieu, pouvait toujours être évitée. C'est une manière de dire, voilà, il est possible de vivre à nouveau. Par hasard, il y a un sacrificateur qui passait par là, par hasard. Quelqu'un disait que le hasard, vous savez ce que disait Einstein ? Le hasard, c'est Dieu qui passe incognito dans votre vie. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, par hasard, il m'est arrivé une chose extraordinaire. Non, c'est Dieu qui est passé incognito dans ta vie, tu t'en es pas rendu compte. Je raconte souvent que j'ai rencontré la femme que j'avais demandé en mariage par hasard sur un bateau au milieu de la Manche. 3 ans après avoir posé les premières pierres de ma conquête, c'était pas un hasard. Dieu était là. Par hasard, un sacrificateur et un lévite. La loi de Moïse précise que ceux qui sont sacrificateurs ou lévites ne peuvent pas toucher des morts ou des cadavres. C'est pour ça que tous les juifs qui sont de la tribu de Lévi, ceux qui portent des noms bien précis comme Cohen, ou des noms qui signifient qu'ils sont saints, donc de la tribu de Lévi, ne peuvent pas entrer dans un cimetière, a priori, parce qu'ils doivent se garder de ces contacts-là pour respecter la sainteté qui s'attache à leur statut de religieux. Alors, est-ce que c'est pour cela qu'ils ne se sont pas arrêtés? C'est possible. C'est peut-être aussi par indifférence, mais en tout cas, le fait de ne pas vouloir aller plus loin, aller vers l'autre, le rencontrer, le toucher. Vous savez, j'ai travaillé pendant 27 ans dans une structure hospitalière qui s'occupait de femmes victimes des addictions, à Guidel. Et donc, j'ai trouvé que c'était une grâce extraordinaire. Parce que, voilà, je pouvais, dans mon travail, faire ce que faisait ou pouvait être ce samaritain. Et il y a un petit mot qui est simple, hein, c'est « comment ça va ?» Puis quand on commence à s'intéresser à l'autre et qu'on lui dit « comment ça va ?», le plus dangereux, c'est s'il répond. Ça m'est arrivé une fois, puis je n'ai pas été attentif. Comment ça va ? Lévite, sacrificateur, son passé. Je ne veux pas savoir comment il va. Ça va me prendre du temps, puis j'ai d'autres choses à faire. Le samaritain s'est arrêté. Et en ce sens, il est vraiment une représentation de Christ. C'est Jean Chrysostome qui dit vraiment qu'il est une description du Christ parce que de même qu'un samaritain n'est pas de Judée, le Christ n'est pas de ce monde. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça veut dire qu'il n'a pas choisi, Jésus, un samaritain par hasard. C'est-à-dire que ce Samaritain, c'est un étranger, c'est pas un juif. De la même manière que Christ n'est pas de ce monde. Mais il est venu pour prendre en charge le blessé que j'étais, le meurtri, l'abandonné. Cet homme blessé sur le chemin de Jérusalem à Jéricho voyageait. Alors il semblerait que le Samaritain, qui représente le Christ, cherchait des personnes qui avaient besoin d'aide, parce que l'autre voyageait. Le texte ne dit pas qu'il est arrivé par hasard, comme le sacrificateur, mais en tout cas, le sauveur est venu avec de l'huile, des bandages, dans le but d'apporter la rédemption au monde, à moi, à toi. C'est cela. Il n'a pas croisé ma route dans les rues de Coquerieville, sur les hauteurs du Havre, par hasard. Il n'y avait pas au troisième étage, deux étages au-dessus de chez moi, un groupe, une famille avec trois enfants qui étaient chrétiens dans l'église apostolique. Ce n'était pas du hasard. C'était Dieu qui venait à ma rencontre. Ah. Au début du récit, dans la deuxième partie du commandement, le légiste a lu à la demande de Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais après cela, Jésus n'avait pas répondu à la question du légiste. « Qui est mon prochain ?» Il raconte cette parabole. C'est celui qui est blessé, qui a besoin d'être aimé. Comment le blessé pourra-t-il se montrer à l'égard du Samaritain, son prochain, comme un débiteur, un esclave, complètement dépendant, ou bien librement aimant? Moi, je ne sais pas, il n'est pas dit comment cet homme blessé qui a été pris en charge a eu un retour vis-à-vis du Samaritain. Mais on imagine bien que cet homme, et c'est ce que disait le petit film vidéo que vous avez vu, il ne lui est pas demandé quelque chose en retour. Par contre, qu'est-ce qu'il fait que face à celui qui m'a aimé, aidé, libéré de mon péché, de mes souffrances, de la mort, il m'a sauvé de la mort. Je ne sais pas, vous, mais moi, il m'a sauvé de la mort éternelle. Ma relecture du livre de la Genèse m'a assez profondément bouleversé ces dernières années sur cette parole que Dieu échange avec les anges et qui dit « Chassons, chassons l'homme et la femme du jardin d'Éden ». Et souvent, on a une lecture très négative, on est chassé. Mais la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que l'homme reste dans le jardin d'Éden, de peur qu'il ne mange de l'arbre de la vie et qu'il vive éternellement, mais éternellement perdu, dans la mort éternelle. Chassons-les du jardin d'Éden afin que ça n'arrive pas. Et la première annonce de l'évangile, c'est la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, même si le serpent lui blesse le talon. C'est l'annonce du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, déjà à ce moment-là, qui écrasera d'une manière définitive la tête du serpent et accordera la vie à l'humanité. Alléluia ! Moi, j'aime cette cohérence de Dieu dans son plan de salut. Alléluia ! Il banda ses plaies, il mit de l'huile, du vin. C'est-à-dire qu'il prend soin de celui qui est blessé. Quelles sont tes blessures ? Quelles sont tes meurtrissures ? En quoi l'adversaire et tous ceux qui l'accompagnent peut-ils mutiler ta vie, blesser ton être intérieur, altérer ce qu'il y a de plus profond en toi ? Christ veut te rencontrer pour soigner toutes tes blessures. Il va bander tes plaies. Il va déposer de l'huile sur tes blessures. Je voyais le journal télévisé qui disait « c'est une catastrophe ». Le réchauffement climatique en Espagne fait que 80% de l'huile d'olive qui est fournie par ce pays est en baisse catastrophique et que nous vivons sur les stocks réalisés par les oléiculteurs en Espagne. d'où l'augmentation du prix de l'huile. C'est une catastrophe. Comment on va cuisiner ? Quand même pas utiliser de l'huile de tournesol et de l'huile d'arachide. Non mais, et le régime crétois, on va en faire quoi ? J'écoutais cela, et quand je lis ce texte-là, il prie de l'huile. Et je vous assure, on pourra manquer d'huile d'olive pour faire la cuisine, mais jamais, jamais, l'onction de Dieu sur nos vies ne pourra cesser. Vous savez que le chandelier, dans sa représentation, vous avez la menorah avec des vases, et puis, en fait, ils sont alimentés depuis quelque chose. Il y avait des oliviers, je ne sais plus quel prophète voyait ça, et il y avait des conduits qui allaient jusque dans le chandelier. Eh bien, vous savez, l'huile ne manquera jamais parce que l'onction vient de Christ. Aucune des blessures de tes meurtrissures ne pourront manquer de la grâce et de l'onction de Dieu. Du vin. Bon, pour un ancien salarié en addictologie, je ne sais pas si je dois gommer ce passage-là, mais je crois que le vin, c'est un symbole aussi de quelque chose qui permet de purifier. Le vin, c'est la représentation du sang qui est expiatoire, qui enlève les péchés, purifie l'âme, permet à l'Esprit Saint d'être avec moi. Et puis, le Samaritain conduit dans une hôtellerie. Pour les premiers chrétiens, cet élément, ça symbolisait à partir du deuxième siècle l'Église. Est-ce que l'Église est l'endroit, l'hôtel, un lieu ouvert à tous, quel qu'il soit ? Je disais en plaisantant, je suis étonné qu'on ait une aussi belle Église où je vis tellement belles choses avec vous. Et puis quelqu'un s'en étonnait aussi il y a quelques semaines. Je disais, oui, mais on sélectionne les personnes qui rentrent dans l'Église. On prend que les meilleurs. On a plein d'invités ce matin. C'est un joke, une plaisanterie. Hein. On ne fait pas de sélection. L'Église est ouverte. Et Michel a l'habitude de dire, elle est ouverte dans les deux sens, pour entrer et pour sortir. L'Église est l'espace où Dieu peut prendre soin de chacun de ses enfants. Et l'Église a ce devoir de prendre soin de tous et de ne pas être sélective. Il prit soin de lui. Il est resté avec le blessé, le Samaritain. J'aime beaucoup le discours qu'il y a eu sur cette peinture, avec la différence entre l'aspect un peu chétif et fragile du blessé et de ce Samaritain qui est là, costaud, et qui porte le blessé, dessiné par Van Gogh. Christ est puissant. Et sa volonté est vraiment de prendre soin de moi et de toi. Est-ce que tu as conscience de ça ? Oui ? Non, je m'adresse à quelqu'un, excusez-moi. Oui, oui, il prend soin de toi, de moi. Et le lendemain, c'est pour Chrysostome une manière de dire, ben, le lendemain, c'est le matin de la résurrection. Quand la résurrection a lieu, eh bien, Christ se lève. Et il se lève pour s'occuper de ses disciples, pour leur parler, pour se révéler. L'hôte, c'est de l'hôtellerie, ce sont ceux qui sont responsables aussi dans l'Église de l'accueil de ceux qui sont blessés. Et à mon retour, dit le Samaritain, ça c'est une annonce un peu particulière. Comment un Samaritain peut-il aller jusqu'au bout de son amour en disant « Mais attends, je te le confie ?» Mais crains rien, je reviens. Et je vais revenir pour que tu puisses avoir ce qui correspond à la dépense ou aux dépenses supplémentaires que tu aurais à faire. Ah, à mon retour. Le mot grec qui est traduit par « à mon retour » n'apparaît qu'une seule autre fois dans le Nouveau Testament, en Luc 19,15, en référence à la parabole du Seigneur qui reviendrait pour juger ce que les gens avaient fait de l'argent qu'ils avaient reçu. Vous voyez ? Parabole du Mont Samaritain, à mon retour, et le Seigneur reviendra pour juger de ce que nous avons fait par rapport à ce monde qui est blessé. Deux mentions de ce mot retour en grec. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà tard, mais cette parabole nous parle. Nous parle du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Nous pouvons descendre aussi profond que cela soit. Jéricho, la ville la plus basse du monde. Je trouve qu'il n'y a pas de hasard non plus dans cette parabole. Au plus profond, mais aussi profond que je puisse descendre, il n'est pas dit que c'était au fond que Christ a récupéré le Samaritain. On ne sait pas. Mais où que cela soit, dans ses profondeurs, Christ viendra à ma rencontre. Il veut me rencontrer maintenant, là où je suis, dans l'état où je suis, pour prendre soin de moi, pour accomplir son œuvre de vie en moi. Merci Seigneur de cette parole dans ton écriture qui nous parle tellement bien, si profondément de l'amour dont nous sommes aimés. Garde-nous, Seigneur, de le négliger, de l'oublier. Que nous ayons là aussi l'acceptation de nous laisser aimer de toi, soigner par toi. C'est vrai, Seigneur, comme l'a dit une de tes paroles ce matin, nous pouvons nous tenir à l'écart de cette source de vie, ne pas vouloir étancher notre soif. J'ai soif de toi, Seigneur. Accomplis ton